Amen. On peut vraiment amener dans cette deuxième partie le fait d'invoquer le nom du Seigneur. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. On peut continuer après cette pause jusqu'au repas de midi. Au point D du résumé, dans Apocalypse chapitre 2 et 3. On a déjà eu un peu de communion au sujet de ces chapitres. Mais on veut vraiment saisir le Seigneur dans cette parole. Le Seigneur parle dans ces deux chapitres aux sept églises. Et à chacune des sept églises, le Seigneur dit la même chose, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne le dit pas juste une fois, mais il le dit sept fois. Quand tu dois répéter sept fois la même chose, quand je dois répéter trois fois la même chose à ma fille ou quatre fois, ça fait quoi? Je dois encore le dire et encore le répéter. Donc quand le Seigneur, là, doit nous répéter sept fois la même chose, et il dit à celui qui vaincra, à chacune des sept églises, ça montre que son peuple en entier, toute l'église n'est pas forcément appelée à être vainqueur, mais est-ce que vous croyez que si l'église en entier allait être vainqueur, juste spontanément, le Seigneur devrait répéter sept fois à celui qui vaincra, que celui qui a des oreilles entende et celui qui vaincra? Non. Mais la réalité, c'est que la grande partie du peuple n'a pas envie de vaincre. C'est pour ça que le Seigneur doit répéter si souvent. Et c'est pour ça que le Seigneur doit nous le dire à celui qui vaincra. Pas juste à celui qui a des oreilles, mais aussi celui qui vaincra. Et dans Apocalypse 2 et 3, on voit que ces sept églises. Il y a une certaine suite dans ces sept églises. Et il nous montre ce qui doit être vaincu à chaque endroit. Il montre une dégradation de ces églises et il montre ce qui doit être vaincu à chaque endroit pour avoir la victoire. Et il montre que les églises étaient complètement détruites à la fin. Et on voit qu'ils n'ont pas été obéissants. Et c'est pour ça que l'église a été détruite. Mais on doit vaincre. C'est des choses. On doit entendre. On doit vraiment entendre, Seigneur Jésus. Et ce que le Seigneur montre dans l'église à Éphèse, dans Apocalypse 2, 4, dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et alors, là commence la chute. Le début de la chute est toujours le même. C'est d'abord d'abandonner l'amour, d'abandonner le premier amour pour le Seigneur. S'il n'a pas ce premier amour de notre part, alors c'est le début de la fin. Tout dépend de ça. Tout ce qu'on voit dans Apocalypse 2 et 3 dépend de ça. Si on a abandonné le premier amour, on doit être prêt à souffrir. Mais si on n'a pas ce premier amour, on n'est pas prêt à souffrir. Et alors, on cherche le chemin large. Tôt ou tard, bien le test qui éprouve. Et on voit dans les lettres de Jean, on voit que si le premier amour est abandonné, alors il y a un mariage. Soit avec le Seigneur, soit avec le monde, mais il y a un mariage en fonction de notre premier amour. Si notre premier amour pour le Seigneur est abandonné, alors tôt ou tard, il va se passer une chute. Si le Seigneur a la première place en nous, si on abandonne ce premier amour, alors notre premier amour sera pour d'autres choses. Et alors apparaît Babylone, la religion. À Thyatire, on voit ça. On voit beaucoup de choses effrayantes de la religion. L'idolâtrie dans l'Église a commencé avec ça. Si la première place est libre, elle reste pas longtemps libre, en fait. Il y a immédiatement quelque chose qui va venir la remplir. Et comme on voit comme Jean finit ses épîtres. Que la paix soit avec vous, à bientôt. On se revoit bientôt. Est-ce que c'est la fin de ce que dit Jean? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Gardez-vous des idoles. Est-ce que tu finirais une épître comme ça? Est-ce que tu veux passer tes vacances avec des idoles? Personne ne fait cela. Mais Jean dit une telle chose. Il montre par là que si on abandonne ce premier amour, alors il montre que des idoles vont venir. Il dit, gardez-vous des idoles. Ces idoles vont tout de suite prendre la place qui est laissée libre. À la fin, on est complètement dans la mort. À l'église, à Sardes, il dit, tu n'as pas aimé mon nom jusqu'à la mort? Est-ce que ça peut arriver qu'une église soit morte? Mais le Seigneur montre en écrivant à l'église à Sardes. as-tu? Quoi ça?
Est-ce que c'est l'église à Sardes? Le terrain de l'église à Sardes?
Peu importe comment est ton nom. Peu importe ton nom. Est-ce qu'il y a est-ce que le Seigneur déclare que c'est son nom qui vit là? Mais si l'église est morte, alors le Seigneur dit qu'il n'y a pas de victoire. Et ensuite vient l'église à Philadelphie. Est-ce que tu crois qu'elle est vainque? Elle veut dire l'amour fraternel. Philadelphie est l'église de l'amour fraternel. Mais crois-tu que si tu as abandonné le premier amour pour le Seigneur, tu peux avoir l'amour fraternel? Ou bien est-ce qu'il y a la haine qui vient entre les frères et sœurs? Pourquoi? D'où vient cet amour? Si on aime d'abord d'autres choses avant le Seigneur, alors c'est difficile d'avoir l'amour fraternel. Et Jean l'a déjà dit. Si tu n'aimes pas Dieu, que tu ne vois pas, comment peux-tu aimer un frère que tu vois? C'est impossible. Ça nous montre que la chute d'avoir abandonné le premier amour a énormément de conséquences. On peut pas se dire, ah, ça va, j'ai abandonné le premier amour, mais ça va. Non, il y a tellement d'autres choses qui vont venir avoir une conséquence. L'église à Laodicée, il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Elle était tiède. C'est tiède. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu es tiède. Si tu manges quelque chose de corrompu, tu vas vomir. Ça peut avoir l'air bon en bouche, mais tu vas être malade. Ça va pas durer. En fait, tu vomis tout de suite. Est-ce qu'on veut que le Seigneur fasse ainsi? Que le Seigneur doive nous vomir? Le Seigneur vomit ce qui n'est pas bon. Puisses-tu être froid ou bouillant? On doit aussi se demander où est-ce qu'on a abandonné l'amour pour le Seigneur, le premier amour pour le Seigneur, et revenir à cela. Et souvent, c'est notre expérience. Au début, on est brûlant. On a ce premier amour pour le Seigneur. Mais le temps est un test. Et alors, petit à petit, des choses viennent prendre cette place. Au début, on est tellement brûlant, on va d'abord aux réunions, et puis après, c'est plutôt les amis. Il y a d'autres choses qui vont prendre cette place. Et ça va montrer le travail, la famille, les vacances. Et le Seigneur nous montre. À la fin, on voit qu'on a même abandonné le premier amour. Seigneur Jésus. Au début, en pratiquant le sacerdoce,
je
J'ai réalisé que deux fois par semaine n'était pas suffisant. Une heure ne suffit pas. Ah, bon, on rajoute encore dans la semaine et ça fait quelques réunions en plus. Ah, quand il y a eu Zoom, du coup, ça devenait plus confortable de pouvoir suivre la réunion depuis la maison. Et ça éprouve notre cœur. Après, quand tu dis « Viens, on se rencontre à tel moment. » Ah oui, on peut le faire par Zoom. Ça devient plus simple. Tu as juste à avoir un lien Zoom. Alors, ça devient tout en ligne. Que veux-tu faire? Est-ce que le lien suffit? Le Seigneur Jésus veut être notre époux. Il veut nous appeler à un festin des noces de 1000 ans et régner avec lui. Si tu as ce premier amour, tu n'as pas besoin qu'on te rappelle ces choses. Tu es immédiatement sur le chemin de la réunion. Et tu ne te demandes pas si c'est nécessaire, tu y vas. Mais ça dépend. Si ce premier amour brûle dans nos cœurs, alors tout le reste pâlit. Tout le reste. Alors, le but est clair. Le Seigneur dit à Éphèse, « Repens-toi. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. » On voit les prophètes, tant de prophètes ont parlé et le Seigneur s'est révélé. Ils voyaient vraiment le Seigneur. Ils ont parlé, ils ont annoncé que le peuple serait déporté à Babylone s'il adorait les idoles, qu'il serait dispersé. Ils ont tellement révélé. Mais à travers de tout ça, il y avait une origine et ça venait, comme le dit Ésaïe, dans le tout premier chapitre, Ésaïe 1, 4, quand le Seigneur parle à son peuple, il dit « Malheur à la nation pécheresse !» au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel. Est-ce que c'est pas comme l'église à Éphèse? J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. tu as abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Si notre premier amour n'est plus pour le Seigneur, alors à la fin, on est pareil, on va se retirer en arrière. Seigneur Jésus. C'est vraiment la source, l'origine de ces choses, c'est d'abandonner le premier amour, d'aimer les autres choses et d'être rebelle. Mais Ésaïe dit aussi, verset 16, « Lavez-vous, purifiez-vous. » En allemand, c'est « repentez-vous. » Tout ça a pour origine le premier amour. Et au verset 2, chapitre 2, verset 13, Jérémie 2, 13. « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, ils m'ont abandonné. » Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Ils ont fait comme les nations. On se fait des idoles. Ils ont adoré des idoles comme les nations. Le Seigneur. Il le reproche pas aux nations, mais à son peuple, parce que son peuple le connaît. Et alors, ils ont doublement péché parce qu'ils ont abandonné le Seigneur alors qu'ils le connaissaient. Et ils se creusent à la place des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Abandonner le premier amour pour le Seigneur est un double péché. Seigneur Jésus. Dans Éphésiens aussi, il montre qu'ils ont abandonné l'arbre de la vie. Et verset 17. Dit, ne vous ai-je pas dit ces choses? Désolé, je ne sais pas quel verset c'est. Et souvent, il veut ouvrir nos yeux. Le Seigneur veut ouvrir nos yeux pour nous montrer. Mais l'ennemi, lui, veut nous rendre aveugles. Il veut nous détourner du Seigneur pour qu'on l'abandonne. Si on abandonne le premier amour pour le Seigneur, alors on va abandonner le Seigneur lui-même. Et ils sont même partis ensuite. Ils ont été détournés jusqu'en Égypte. Dans le monde, à Pergame, ils montrent qu'ils sont mélangés avec le monde et il y a même le trône de Satan. Beaucoup de choses impures. Ou bien je ne sais pas à quel verset il lit. Mm-hmm. Tu as abandonné ton Dieu. Le problème, c'est d'avoir abandonné le premier amour. C'est vraiment le premier aspect. Si on veut, le Seigneur dit, celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Comme il promet à l'église à Éphèse, le Seigneur veut qu'on ait la crainte de lui pour nous donner à manger de l'arbre de vie. Le Seigneur veut nous sauver. Il y a encore beaucoup à dire, mais le temps est compté. Dans Apocalypse 3, le Seigneur dit encore à celui qui vaincra, il dit à l'église à Philadelphie, verset 12, Apocalypse 3, 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Donc, dans l'église à Philadelphie, il dit à celui qui vaincra, il veut nous mettre dans son temple, mettre ceux qui sont vainqueurs dans son temple. Son temple est vraiment là où sont les sacrificateurs. Il veut que celui qui est vainqueur soit là. Il ne veut pas juste qu'il soit édifié n'importe où, mais il veut qu'il soit édifié dans son temple. Parfois, on est à la réunion et on attend après tant de choses. On attend tant d'autres choses. On doit apprendre à dire, Seigneur, maintenant je veux vaincre, je veux être une colonne dans ton temple. Je veux ouvrir ma bouche. Comme Clemens a aussi partagé. C'est pas juste à la table, mais on doit vraiment vaincre. Amen. Seigneur, je veux être une colonne dans ton temple. On peut avoir une. Souvent, on attend que quelqu'un d'autre prenne la parole. Mais notre. On doit vraiment expérimenter de. Faire cela. On sort de la responsabilité. Mais on doit quand même être on peut quand même être à la réunion. Et à la fin, on sort, au début, on se retire juste de la responsabilité, à la fin, on sort carrément de la réunion elle-même. Mais, amen, on doit vraiment prier aujourd'hui, appeler le Seigneur, invoquer son nom. Peux-tu lire? Tu peux lire. peux lire une parole. Marc, est-ce que tu peux lire? Oui, alors tu peux lire quelque chose. Elias aussi. Hannah. Tu apprends, tu es enseignant, tu apprends à lire. Est-ce qu'on ne peut pas à la réunion simplement amener un verset ou un chant? On peut tous lire. On peut tous ouvrir notre bouche. C'est pas que je ne peux pas ouvrir ma bouche ou que je ne peux pas parler ou lire un verset. Le problème, c'est que mon moi préfère rester silencieux. Tu préfères être à la maison. Seigneur Jésus, il est déjà l'heure. Combien de temps ça... Si on est de telle colonne, on ne sait pas si la maison va tenir. Le problème, c'est qu'on doit vaincre. Combien de fois dans la réunion on a entendu « lui qui vaincra ». On parle de vaincre, mais on a besoin de pratiquer dès le commencement. Peu importe si c'est quel type de réunion, dans quel type de réunion on est, réunion de maison, ou bien la réunion de la table, ou de la fête, mais on peut tous donner un témoignage. On peut chacun faire quelque chose. On peut tous louer le Seigneur. Merci Seigneur pour cette réunion. Parle-nous aujourd'hui. Est-ce que c'est trop? Non. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? On doit vaincre. Pas juste toi, moi aussi. On doit vaincre. On voit ici à celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Le Seigneur veut écrire son nom aussi sur ses colonnes. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu. Amen. Si quelqu'un connaît ma fille, dès qu'elle a des chaussures, elle se met à marcher. C'est-à-dire, il ne veut pas qu'on soit ainsi. Il ne veut pas juste avoir écrit la première lettre sur nous et qu'on soit déjà loin, mais il veut vraiment qu'on demeure là, qu'on reste là. Il veut écrire « Nouvelle Jérusalem » sur nous. Il veut l'écrire sur nous, sur notre front. Amen. Oui, le Seigneur. Le Seigneur a beaucoup de place sur mon front pour écrire Nouvelle Jérusalem. Mais si je pars rapidement, alors le Seigneur ne peut pas. Mais est-ce que je me mets à marcher dès que je suis là? Est-ce que je sors direct? Ou est-ce que je reste? Combien de choses est-ce que le Seigneur a le temps d'écrire sur mon front? Je veux vaincre. Amen. Je veux demeurer dans le temple de mon Dieu. Amen. Demeurer dans le temple de mon Dieu. Et comme Nathan a aussi partagé, c'est aussi au travers de il y a aussi beaucoup de pieux qui tiennent la paroi extérieure du tabernacle. Et cette paroi de fin, là. Si les pieux ne tiennent pas, alors il n'y a pas la paroi. Il n'y a pas de protection. Alors tout est inclus. On est dans l'inclusion de tout. Combien de protection est-ce qu'il y a? Vraiment. Est-ce que ça fait tout le tour? Est-ce qu'il y en a 60? Waouh, 60. 60 pieux. Ça devait être grand. Ils tiennent cette paroi de fin là. Est-ce qu'on ne peut pas être ainsi? C'est pas si dur. On a beaucoup d'autres. Si on est tous ensemble, alors là, il y a la gloire. C'est si beau. Magnifique fin lin blanc. Mais si on a juste un ou deux, alors ce fin lin, il va pas tellement tenir. Il va être un peu... Il va pendouiller. Alors, ça ne va pas. Et ça, on l'apprend dans les petites situations, à dire, Seigneur, ok, je sais que je suis pas tellement capable, mais Seigneur, tu dis à celui qui vaincra, Seigneur, tu fais de moi un tel pieu. Je le suis pas, mais tu fais de moi un tel pieu. Alors, quand on vient à la réunion, on va vaincre. On a besoin de s'échauffer avant la réunion. Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire que tout va être simple, mais le Seigneur le fait en nous et on peut commencer pour être une colonne dans le temple de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on le croit? C'est vraiment un magnifique encouragement. Et on a aussi les uns les autres. Dans Galates 6, il dit au verset 1, frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On a un tel travail. Parfois, un frère ou une sœur fait une faute. Et c'est effrayant, mais le Seigneur veut pas qu'il y ait de telles choses dans l'Église, mais on a besoin de se redresser les uns les autres. Comme il dit aussi dans Timothée, ne traite pas rudement le vieillard. Amen. Agissons ainsi, nous redresser les uns les autres avec douceur. Pas rudement, en sortant de l'église, mais on a besoin de l'unité de l'esprit. On a besoin. On voit au verset 2 le terrain de cela. Il dit porter les fardeaux les uns des autres dans l'amour. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Est-ce que c'est ça le terrain? C'est par là, en fait, que vient l'unité. C'est par cet amour fraternel aussi. Si on critique, on a besoin de l'unité de l'esprit. Cette unité de l'esprit ne veut pas dire qu'on dise juste louer le Seigneur. Est-ce que tu crois que c'est ça? Combien de fois est-ce qu'on a dit on doit être un? C'est ça le terrain, on doit être un. Tu ne peux pas rester un si c'est juste ça. As-tu l'unité de l'esprit? C'est pas étonnant qu'un tel temple s'écroule. Il était dans Éphésiens 4, 2 et 3. Amen, Seigneur Jésus. Toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 1 Timothée 3. 15. Il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La vérité est si importante. Elle est plus importante que tout. Elle est reliée à Dieu. Les gens parlent beaucoup de rébellion. Tu es un Absalom. Mais si je te dis ça, si je te dis tu es un Absalom, tu dois te mentir. Alors, je dois avoir l'attitude de David, non? La rébellion dans la Bible est toujours contre Dieu. Elle est, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est la rébellion. Mais quand la parole de Dieu est claire, alors il y a la vie. Si on est fidèle dans la vérité, alors on est ces colonnes colonne et l'appui de la vérité. Amen. La colonne et l'appui de la vérité. On doit apprécier la vérité et la chercher. La poursuivre comme à Philadelphie. Pas pour rien, si. Il parle du temple de Dieu à l'église à Philadelphie. C'est le lieu où les sacrificateurs servent dans le temple. Il y a
Faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs.
Et là, ça montre la vérité à Philadelphie. Le Seigneur dit à celui qui vaincra doit je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et ça, c'est pour les sacrificateurs fidèles dans le service de Dieu. Pour ceux qui vont vaincre. Si on est fidèle à Dieu et à sa parole. Amen. Louez le Seigneur. Nous voulons être des vainqueurs. Amen.